Je vous rappelle qu'on est avec Nicole Escaut, notre invitée, la présidente des Amis du Vieux Lançon, Lançon avec qui, grâce à tous ces gens passionnés, on passe beaucoup de temps à évoquer le château, la ville de Lançon, le Provençal, les contes. Et là, Nicole nous raconte son enfance dans la bergerie qui remonte à ses arrière-grands-parents, à ses grands-parents. Et là, on est dans les années 50, Nicole.
Oui, à peu près, oui, oui. Alors, pour les moutons, les bergers avaient des prés où ils en louaient. C'était comme ça, hein, où ils étaient
D'accord.
propriétaires, où ils en louaient. Alors, ces prés étaient arrosés la nuit, mais en réalité, ils n'étaient pas arrosés. Ils étaient noyés par l'eau du canal de Craponne. Et mon grand-père était égadier aussi.
Égadier.
Voilà. Alors, l'égadier, c'est une personne qui est responsable des prises d'eau du canal et de leurs usages. Parce qu'il faut savoir que le canal de Craponne, c'était des dérivés du canal de Craponne. Il y avait des jours pour arroser, il fallait payer une redevance. Alors tout ça, ben, il y avait une personne qui regardait si tout le monde respectait les règles.
Voilà, qui gérait la distribution de l'eau.
Exactement, en quelque sorte. Surtout à surveiller, à voir si les demandes, voir si les martelières étaient bien remises. Les martelières, c'était pour arrêter l'eau, pour éventuellement la faire recouler.
D'accord.
Voilà. Dans le troupeau, mon grand-père avait deux chiens.
Ça paraît important, là. Vous me regardez fixement voilà. en me parlant des deux chiens.
Voilà.
Dites-moi.
Alors, il y avait Bergère. C'était une chienne qui était un peu rebelle. Elle était toute rousse, elle était un peu rebelle. Mais par contre, il y avait Brillant. Alors, Brillant, c'était le chien de mon oncle. C'était un beau chien, tout gentil, au pelage foncé, tout doux. En fait, c'était vraiment la crème des chiens. Alors, il faut savoir que les chiens travaillaient beaucoup, surtout en montagne où l'espace était immense. Et mon grand-père se faisait un honneur de ses chiens, de bien les traiter. Et le soir, en arrivant, il y avait la soupe pour les chiens. Ça, c'était la tradition. Le soir, les chiens mangeaient la soupe. Et chaude en hiver, bien sûr.
Ah, alors voilà. il rendait bien à ses chiens les services que ses chiens lui rendaient.
Mais je crois que c'est tous les bergers. Hein, tous les bergers, les chiens, c'était important. Pour un berger, c'était le 90% du travail, on va dire. Hein.
Il faut dire à nos auditeurs, parce qu'il y en a qui arrivent des villes, qui ne connaissent pas quand même, peut-être, je ne sais pas, ce que faisaient les chiens. Ils ramenaient le troupeau.
Ah oui, c'est eux qui gardaient le troupeau,
ramènent les petits moutons qui voudraient se perdre.
Exactement, voilà. Exactement. Oui, oui. Mais sur la route, dans les champs, vous savez, dans les villages, les prés se touchaient. Ben, c'est le chien qui délimitait les limites pour ne pas aller manger le pré du voisin. Hein.
C'est les barrières électriques.
Exactement. On peut dire. Oui, oui.
Magnifique. Vous voyez le rapport à la nature. Hein.
Voilà. Alors, on a parlé de la tonde, mais il faut savoir que les tondeurs, c'était une tradition, ils mangeaient chez le berger ce jour-là.
Ah oui, ils étaient invités.
Oui. Ah oui, alors là, ça allait bon train, les commentaires.
Oh là là, j'imagine.
Tout ce qu'on voulait. Et on tuait un mouton, en principe. Mon grand-père tuait un mouton ce jour-là. Et moi, mon régal, c'était d'aller aider ma grand-mère. J'en ai toujours un souvenir des tondeurs... qui venait manger chez mes grands-parents ce jour-là.
Alors, sur des grandes tablées en chêne.
Ben oui. Mes grands-parents n'avaient pas de salle à manger, mais ils avaient une cuisine très, très grande.
Souvent, d'ailleurs. Souvent, avec le fourneau, avec...
Exactement.
Alors, ça devait aller bon train, cette ambiance, le midi.
Ah oui. Ça jacassait bien. Alors, on a fait la tonde, mais on part en transhumance toutes les années. C'est-à-dire à peu près fin mai, début juin, le troupeau part à la montagne. Alors là, c'est encore quelque chose d'important. Et ça revient, ils reviennent vers le 15 septembre, mais tout ça dépend de la météo. Hein, c'est pas un jour fixe.
D'accord.
Voilà. Alors, avant de partir en montagne, il y avait quand même des choses à faire. C'est-à-dire, on vaccinait les brebis.
Tiens.
C'était obligatoire.
C'est l'époque.
Ah oui, alors oui, voilà. Alors il venait le vétérinaire de salon, qui s'appelait Monsieur Comte. Alors on mettait des claides. Alors les claides, ce sont des barrières en bois. On appelait ça des claides.
Oui,
alors on mettait, les moutons passaient et on les vaccinait. Alors, vous savez, ça allait très vite, parce qu'avec la même seringue, ça y allait. Hein.
Mais vacciner contre quoi ?
La fièvre rapteuse, tout c'est, c'était obligatoire. Hein, de toute façon, c'était ça. Je ne vais pas m'avancer à vous dire. Et ensuite, il y avait le marquage des moutons. Alors, il faut savoir que plusieurs troupeaux partaient en même temps à la montagne. Il n'y avait pas que le troupeau de mon grand-père. Mon grand-père partait à la montagne, mais il y avait d'autres bergers qui amenaient ses bêtes. Donc, il fallait que les moutons soient marqués. En principe, c'était les initiales du propriétaire. Et dans les grands domaines, des fois, il y avait des marques un peu particulières. Enfin, voilà. Mais alors, mon grand-père, c'était le C et le H, puisque c'était Clément Honoré. Alors, on trempait, c'était un fer où il y avait des initiales. On le trempait dans un produit rouge, de la peinture rouge. Et vous pensez les moutons tout blancs, là, si ça marquait bien?
Ah ben, comment, oui.
Voilà. Et on les marquait sur le flanc gauche. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais toujours sur le flanc gauche. Ça devait avoir quand même quelque
une
chose.
Raison, peut-être.
Une raison, voilà. Alors, ils sont vaccinés, on les a tondus, on les a marqués, et voilà qu'on part pour la transhumance. Alors, la veille du départ, tous les troupeaux arrivent, puisque je vous ai dit que d'autres bergers amenaient leurs troupeaux. Alors, tout le monde arrive, tous les troupeaux sont marqués, bien sûr. Et à peu près 2500 bêtes quand même, qui sont réunies à la fin. Hein,
ah, quand même.
Ah oui. Alors oui, il y en a sur la place du Champ de Mars, il y en a près de la bergerie, il y en a sur les airs alentour du Champ de Mars, où il n'y avait pas de construction comme maintenant. Hein. C'était vraiment... Ah oui, ça occupait tout le... Alors c'était quelque chose, tout le monde venait voir les troupeaux, c'était quand même... Et en principe, les bergers qui venaient mener leurs troupeaux accompagnaient souvent mon grand-père jusqu'à l'alpage. C'est-à-dire jusqu'au dernier village avant de monter la montagne. C'était de tradition parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas mon grand-père tout seul et mon oncle qui pouvaient mener autant de bêtes. Et après, les bergers revenaient par les autobus, il n'y avait pas de souci. Alors, on préparait aussi les ânes. Parce que dans le troupeau, il y avait trois ânes. Mon grand-père en possédait qu'un. Les autres, c'était des ânes des autres bergers.
D'accord.
Et le charreton.
Qu'est-ce?
Alors, le charreton, c'était une petite charrette toilée, simplement.
Ah ben voilà.
Alors, qui possédait devant chaque côté deux lanternes, ce qu'on appelait des fanaux en provençal.
Mais alors, les ânes, ils avaient un bas, j'imagine, dans
alors,
lesquels...
Alors, les ânes, ils transportaient les provisions, les effets des bergers et le sel pour le voyage.
Eh oui.
Encore le fameux sel pour le voyage. Et le charreton, lui, transportait plutôt les vêtements, un matelas, les ustensiles de cuisine, parce qu'il fallait bien manger tout le long de la route. Et c'est ma grand-mère qui s'occupait de faire à manger.
Vous allez, dans un instant, continuer, Nicolescu, à nous raconter cette transhumance. Passionnant.